On va commencer Bezrat Hashem, notre quatrième cours sur le chapitre 38, et je pense que ce sera le dernier cours. Bezrat Hashem, Chazak.
Amen.
On va dédier le cours de ce soir pour l'Eilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de l'épouse du Rabbi, la Rabbanit Chaya Mouchka, qui nous a quitté le 22 Shvat. Donc le 22 Shvat, c'est la date de Shabbat. Le 22 Shvat, c'était en 1988, donc ça fait quand même un bout de temps. Et d'ailleurs à cette occasion, il y a des milliers de femmes qui se trouvent actuellement à New York chez le Rabbi, à l'occasion d'une convention annuelle liée.
Elles sont rentrées là.
Oui, là-bas, il y a la connexion. Mais en tout cas, c'était ce Shabbat, donc liée à la date de la Hiloula de la Rabbanit Chaya Mouchka. Donc on va dédier Bezrat Hashem ce cours pour l'élévation de son âme et pour l'élévation de notre âme aussi. Ok. Alors, reprenons le thème. On est dans le dernier cours sur le chapitre 38. Dernier, je sais pas, mais on verra, je pense. De quoi on parle? On a commencé à parler d'un thème très important, la Kavana. La Kavana, ça veut dire que, on peut dire qu'on a marqué un tournant dans l'étude du Tanya. Autant jusqu'à présent, on n'arrêtait pas de parler de l'importance de l'action. Là, on a passé la deuxième. Là, on t'a dit, bon, l'action, c'est bien, très bien, t'auras une récompense, t'auras le Gan Eden, t'auras ce que tu veux. Bon, ça, c'est bien, pas de problème. Si tu veux un Gan Eden, c'est bon, tu l'auras. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, on va passer à la Kavana. C'est quoi la Kavana? C'est est-ce que tu vis vraiment ton judaïsme? Est-ce que tu vis vraiment ta tefila? Est-ce que tu vis vraiment la mitzvah que tu es en train de faire? On se dit, oui, mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, ce qui compte, c'est que j'ai fait la mitzvah. Il dit, bon, j'ai pas dit que tu as pas fait la mitzvah. Mais il a donné plusieurs exemples. On avait donné plusieurs exemples que je vais pas revenir maintenant dessus, parce que la semaine dernière, on a fait juste trois quarts d'heure juste à l'oral. On a expliqué plusieurs exemples pour montrer que il y a à faire quelque chose, et il y a à faire quelque chose avec Kavana. Et c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, tu peux faire des tas de choses dans ta vie. Quand tu fais avec Kavana, c'est autre chose, c'est une nouvelle chose. Alors, c'est pour ça que l'Admour Hazakan a dit la chose suivante. Il a dit, le travail d'un juif sur terre, c'est d'essayer de faire les mitzvot et d'essayer de les faire avec Kavana. D'essayer de vivre la mitzvah. Par exemple, tu fais Shabbat. C'est très bien, tu fais Shabbat. Maintenant, la phase 2, c'est essayer de vivre ton Shabbat. Là, vous allez voir que c'est compliqué. Très compliqué. Tu fais la tefila, Baruch HaShem. Maintenant, phase 2, essaye de vivre ta tefila. Pose-toi la question, en quoi je kiffe ma tefila? Quelle nouvelle option j'ai trouvé dans ma tefila aujourd'hui? Quelle nouvelle option? Qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau? C'est obligé, sinon ça marche pas. Et ça, on le voit dans le chiffre, bien sûr. Justement. Une personne, il a acheté une voiture. Et sa voiture, elle a déjà 30 ans. C'est fini, il a envie de la larguer.
Sa vignette, il a 30 ans, il faut qu'il mette des options aujourd'hui.
Non, c'est ce que je dis.
Faut mettre la vignette.
C'est que vous achetez une voiture. Maintenant, la voiture, elle a déjà 30 ans. Ça fait 30 ans que vous l'avez. Bon, c'est fini, elle vous parle plus, la voiture. Elle vous intéresse plus. Il faut lui trouver une raison pour vous intéresser. Peut-être ça va être une voiture de collection. Peut-être ça va être une 300. D'accord. Peut-être ça va être, je sais pas. D'accord. Peut-être ça va être, je vais trouver quelque chose de nouveau. C'est la même chose. Tu fais une fila. Si tu fais toujours la même fila, la même, ça marche pas. D'accord. Vous savez, moi une fois j'étais aux Champs-Élysées et j'ai vu. Vous savez, aux Champs-Élysées, le dimanche matin, il y a toutes sortes de voitures de collection qui se baladent. Bon. Alors, une fois, j'ai posé la question, je lui ai dit, mais dites-moi, votre voiture, vous la sortez que le dimanche?
Oui.
Vous la sortez pas en semaine? Il m'a dit non. Il m'a dit, si je la sors en semaine, il n'y a plus le kiff. Oui. C'est intéressant.
La voiture du dimanche.
Ça veut dire que pour créer, il faut que quelque chose de nouveau. Donc, le problème qu'on a avec la tefila, c'est très sérieux ce que je vous dis. Le problème qu'on a avec la tefila, c'est que la tefila, étant donné qu'on la fait tous les jours, matin, midi et soir, donc du coup, on a beaucoup de mal à la vivre. C'est très difficile. Et c'est pour ça que Rashi te dit, sur le schéma, il te dit, Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim et tsefecha hayom. Hayom en hébreu, ça veut dire quoi? Aujourd'hui. Ça veut dire que lorsque tu lis ta tefila, lorsque tu lis ton schéma, tu dois t'imaginer comme si que Dieu était en train de te parler aujourd'hui. Comme si qu'il vient de te donner aujourd'hui un nouvel ordre. C'est impossible. Comment tu veux que je sente ça? Ça fait des années que je fais ma tefila.
Ah
oui, mais c'est difficile. Tout le temps comme tous les jours. Hazak.
Il y a ça qui suit.
Hazak. Servez-moi la même chose. Les chayim. Non, sérieusement, c'est très dur. C'est très très dur, ça. Moi, je vous dis, je parle pour moi-même, par exemple, je sais que des fois on arrive, des fois on n'arrive pas. Des fois ça arrive, tu fais une tefila. Même si tu as compris la traduction des mots, tu fais la tefila. Tu dis finalement, en quoi j'ai changé il y a une heure et maintenant? En quoi j'ai changé? En quoi cette tefila m'a parlé? En quoi ça m'a parlé?
Si je change aujourd'hui, comment je vais encore changer demain?
Ah ben,
et encore demain, ouais.
Et encore après demain.
Bien sûr, on évolue tout le temps.
Y a plus de limite,
l'homme évolue tout le temps, c'est la question.
Non mais oui.
Ok. Alors, maintenant, bon, je vais pas trop, on va pas trop faire à l'oral, je voulais monter dans le texte, d'accord? Donc, on a expliqué que pour arriver à la Kavana, il n'y a pas de secret. La Kavana, ça passe par la réflexion. Et rappelez-vous, les derniers cours qu'on a fait, on avait plusieurs cours sur ça, pour expliquer que la qualité d'un homme, c'est son cerveau. Il n'y a pas où aller. Rappelez-vous, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, c'est quoi l'homme? C'est la réflexion. Donc tu veux une Kavana, il faut réfléchir. Ne crois pas que tu auras une Kavana qui va venir toute seule. Du style, tu vas venir dans un endroit, tu vas chanter à voix haute, ou je sais pas, ou tu vas bouger. Ça, c'est du pipeau, ça. Je dis pas que c'est du pipeau, mais c'est pas ça la Kavana. Ne croyez pas que la Kavana, c'est celui qui est en train de bouger. Des fois, tu vois quelqu'un qui est en train de faire ce tu es en train de bouger, tu as l'impression qu'il est en train d'attraper des anges. Peut-être qu'il attrape des anges, mais on te dit c'est pas ça la Kavana. C'est pas ça la Kavana. Ça, c'est bien, ça s'appelle sentir la tefila. Ça s'appelle sentir la tefila comme c'est le niveau animal. Rappelez-vous, minéral, végétal, animal. Non, bien, c'est très bien. Mais c'est pas ça la Kavana. La Kavana, c'est beaucoup plus que ça. La Kavana, c'est dans ma tête. Est-ce que la tefila est en train de me parler maintenant? Est-ce que cette tefila m'intéresse maintenant? Est-ce que ça me parle ou ça me parle pas?
Mais tu veux qu'on contrôle notre pensée, quoi.
Évidemment. C'est pas seulement contrôler notre pensée, c'est préparer notre pensée à ça. Tu te prépares.
Et tu sais que c'est difficile.
Tout passe par la préparation. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi une personne, il va commander un séjour, il va aller en vacances? Qu'est-ce qu'il va faire qui va profiter du séjour? La préparation. Dans sa tête, il se prépare à ça. Imaginez que d'un coup, on le prend comme ça, on lui ferme les yeux, il se réveille, tout d'un coup, il est en vacances. Bon, ok. Si il s'est préparé à ça, il a réfléchi, etc., ça n'a rien à voir. La Kavana, c'est incontournable. Et la Kavana, ça passe par la tête, ça ne passe pas par le cœur. Bon, c'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, le problème, et ça va être le thème du cours d'aujourd'hui, c'est que des fois, on n'a pas l'esprit assez évolué. Ras v'shalom, c'est pas qu'on est des imbéciles, on n'est pas des rigolos, on n'est pas des gens sous-développés, au Hachem. Mais il faut quand même réussir, comme tu disais tout à l'heure, à maîtriser parfaitement son cerveau pour être capable de comprendre et de générer des sentiments envers Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est exactement, même dans le rôle, c'est dur. Même dans le rôle, c'est dur. Essayez par exemple quelqu'un qui a une affaire. Quelqu'un qui a une affaire ou qui a un emploi. Essaye de réfléchir pendant une heure à ton affaire. Pendant une heure non-stop. Tu vas voir, c'est presque impossible. Non, mais non. Je dis pas réfléchir à des problèmes qui arrivent. Comment solutionner des problèmes. Je parle, il n'y a aucun problème à régler. Tu réfléchis à ton affaire. Je réfléchis à mon affaire. Qu'est-ce que je peux faire? Et tu reprends ton affaire et tu essaies de la revoir dans tous les sens pour essayer d'améliorer. C'est très difficile de réfléchir non-stop à quelque chose. C'est très compliqué. C'est dur. Alors, la Gemara Zaken te dit, normalement, il n'y a pas de secret. C'est l'intellect. Maintenant, qu'est-ce qui fait celui qui n'arrive pas? Voilà. Je vous donne un exemple concret. Imaginez, par exemple, j'aimerais vraiment faire une bonne tefila. J'aimerais vraiment vivre ma tefila. Mais chaque fois que j'essaye de me concentrer un petit peu, mon esprit divague. Qu'est-ce que je fasse? Et c'est pas que je veux pas, j'essaye. J'essaye, mais j'arrive pas. C'est-à-dire, j'essaye. Je vais tenir quelques secondes, et une minute, deux minutes, pac, après c'est parti. Alors je me dis quoi? Ça y est, je suis raté. C'est raté pour moi. Vous comprenez? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous voulez, autant le cours précédent, c'était la théorie, maintenant c'est la pratique. La pratique, c'est-à-dire, bon, très bien, tu m'as dit que la Kavana, c'est important, il faut vivre, il faut réfléchir, il faut ressentir. D'accord, c'est très bien tout ça. Et si j'arrive pas? En hébreu, vous savez comment on appelle ça? Mi shedato ketzara. Celui que son esprit est trop étroit. Et c'est chacun de nous. Il y a des choses pour lesquelles notre esprit est trop étroit. Tu comprends? Ça veut dire, par exemple, Serge, si je te parle maintenant de Ferrari 308, tout de suite, l'esprit, il est large. Il prend tout. Ça veut dire, si on te dit, attends, on a découvert un nouveau truc, ton esprit, il est là. Mais si maintenant, on va nous parler d'une mitzvah ou d'un détail, etc., il y a des choses pour lesquelles notre esprit est étroit.
Fermé.
C'est pas qu'il est fermé, il est étroit.
Et
c'est quoi le problème? Non, alors c'est quoi le problème d'un esprit qui est étroit? Le problème d'un esprit qui est étroit, c'est que t'as un goulot d'étranglement. Ça veut dire que t'essayes de faire rentrer, mais là, vous comprenez, là, c'est pas mal, là, parce que là, j'ai du coup qui sort d'ici, qui va vers là. Ouais. Donc, ça vient d'ici, ça va descendre, y a pas de problème. Maintenant, imaginez que c'est le contraire. Ça rentre, j'ai un jet d'eau, d'accord, qui rentre, mais il y a un tout petit bouchon.
C'est bouché. Un petit peu gardé.
Combien va rentrer à l'intérieur?
Comment ça s'appelle?
Hein?
Très peu.
Ben exactement. Imaginez, c'est ça l'esprit étroit. C'est qu'en fait, pour la Torah et pour la Tfila, notre cerveau est souvent comme ça. Ça veut dire pour les affaires du monde, mon cerveau il est comme ça. Vas-y, envoie, envoie. Envoie, j'attrape tout. D'accord. Hop. Dès qu'on parle d'argent, tout de suite, c'est grand ouvert. C'est pas seulement tu captes ce qu'on t'envoie, tu captes ce qu'on envoie à côté aussi. Tu captes tout.
Il est ouvert sur des sujets qui nous intéressent.
Ah, bien sûr. Et voilà, c'est la question.
Mais c'est grave, je dis donc. C'est ça.
Et mais dès qu'on envoie pour la Torah, allez, c'est fermé. Et donc ça rentre, mais ça rentre. Combien il va rentrer? Voilà, là comme ça, j'envoie un jet de combien ça va rentrer? Rien, c'est infime. Alors qu'est-ce que je fais? Mais le problème c'est que c'est même pas de ma faute.
Mais c'est comme ça qu'il nous a conçu.
Exactement.
Il nous a conçu pour être intéressé.
Attention, non, c'est pas qu'il nous a conçu comme ça, c'est qu'avec le temps on s'est habitué à être intéressé par certaines choses.
Et on est intéressé par la matérialité.
Très bien. Mais ça veut dire avec le temps on s'habitue comme ça. Ça veut dire on va lire des livres qui parlent de ça, on va parler avec des gens qui parlent de ça, on va réfléchir comme ça, on aura une maison comme ça, on aura une voiture comme ça. Ça veut dire on vit dans un système qui est comme ça. Donc du coup, on vit dans un système dans lequel je suis ouvert pour ce qui est matériel. Et je suis fermé, ou pas fermé, mais en tout cas réduit, restreint, pour ce qui est abstrait, pour ce qui est spirituel. Alors je fais quoi maintenant?
Comment on fait maintenant?
Comment je fais? J'aimerais avoir la kavana, mais ça passe pas. Voilà. Tu vois, on envoie de la kavana, mais ça passe pas. Je sens que ça passe à côté. Je sens que ça passe à côté. Comment on fait? Tu sais, on est aérodynamique comme ça. Tu passes, la kavana elle est passée à côté. C'est ce qui se passe. Tu comprends? On a plongé dans l'amida. T'as plongé dans l'amida avec aérodynamique, l'aérodynamique comme ça. Toi, t'as plongé et l'amida est passée à côté. Vous savez, pour expliquer ce que je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire. Une fois, on a posé la question à des chassidim polonais. On leur a dit, comment ça se fait que quand vous faites l'amida, vous la faites à toute vitesse? Mais quand je vous dis à toute vitesse, c'est pas à toute vitesse comme vous pouvez imaginer. À toute vitesse, ça veut dire qu'en 20 minutes, vous avez tout fini. Toute la tefila. Alors, on leur a dit, mais comment vous pouvez aller tellement vite? C'est-à-dire l'amida, une minute. On peut s'habituer à prononcer rapidement, d'accord? Je dis mais comment vous faites? Alors qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu comme ça. Ils ont dit, on va vous donner un exemple. À l'époque, pour aller d'une ville à l'autre, on prenait le train. Bon, aujourd'hui encore, mais à l'époque c'était le seul moyen de locomotion. On prenait le train. Maintenant le problème, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de quoi se payer un billet de train. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient un peu plus loin dans les rails, ça veut dire à 1 ou 2 kilomètres. Et lorsque le train démarrait, d'accord, il s'accrochait au train, il restait comme ça accroché au train. Vous savez, voyager gratuitement, c'est comme ça, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme technique? Le problème, c'est un vrai problème parce que du coup, il y avait comme ça des centaines de personnes qui s'accrochaient. Et du coup, le train, il allait tirer toutes ces centaines de personnes. C'est surtout à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Alors, ils ont trouvé la technique, c'est qu'en fait, il faut mettre des barrières sur 1 ou 2 ou 3 kilomètres. Et il faut que le train prenne de la vitesse le plus vite possible. Parce qu'une fois qu'il a pris de la vitesse, plus personne ne peut s'attraper. Alors, ces chassidim polonais, ils ont répondu comme ça. Ils ont dit, vous savez pourquoi on va très vite dans la tefila? On va très vite dans la tefila, comme ça, Yitzhara, il n'a pas le temps d'attraper. Tu vois, comme ça, on trace. Yitzhara, il n'a pas le temps d'attraper. Et c'est bon, on est sauvé comme ça.
Mais on ne dit pas comment
on fait la tefila. Attends. Non, mais c'est pas fini l'histoire. Donc, ça, ils ont dit ça à leur maître. Tu vois, leur maître, pourquoi vous allez tellement vite? Il dit, voilà, on va vite, comme ça, Yitzhara, il n'a pas le temps d'attraper. On est déjà 10 longueurs d'avance. Très bien. Vous savez ce qu'il a répondu leur rave? Le rave, il leur a dit oui. Mais ça marche, à condition que vous êtes monté dans le train.
Oui, il faut d'abord monter.
Mais si le train, il est parti et toi, t'es pas dedans. Et que le train il trace. Il y a rien. Le train il a avancé, il est parti. Il dit, la mida est partie. Et toi t'es où? T'es toujours là. Tu comprends? Mais ça, j'ai beaucoup aimé cette image. C'est l'image que le Rav Stenzel s'amène dans son... C'est une vraie histoire. C'est une image que le Rav Stenzel s'amène dans son livre sur le Tanya. J'ai beaucoup aimé cette image parce qu'en vérité, c'est une image qui illustre parfaitement ce qui se passe quand on fait la tefila. Quand je fais la tefila, ben, la tefila, elle peut avoir passé, mais moi, je suis resté où j'étais. Ou bien, je peux avoir carrément voyagé. Vous savez, il y avait un Rav qui avait l'habitude très souvent, dès qu'il terminait l'amida, il allait voir chaque fidèle, il lui disait « Shalom Aleichem ». Après l'amida, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Alors une fois il y a un fidèle qui a dit mais Rav, promets Shalom Aleichem, on va dire Shalom Aleichem tout à l'heure en rentrant. Il a dit non mais depuis pendant l'amida, toi t'es parti à Hong Kong, toi t'es parti en Chine, toi t'es parti pendant l'amida. Tu vois.
C'est vrai, c'est une bonne pensée,
là. Donc il dit bonjour, t'es revenu de Chine maintenant.
Fais le gomel.
Ouais. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Les meilleures idées elles tombent pendant l'amida.
Pourquoi?
Justement, parlons-en. Non, alors voilà. Alors, ce que tu dis, donc là, ça, c'est le thème du cours d'aujourd'hui. On va avancer dans les mots. Comment faire quand je sens que ça passe pas? Quand je sens que j'arrive pas à maîtriser ma kavana quand je sens que j'arrive pas à contrôler, à faire en sorte que ma kavana va être concentrée pour Dieu. Voilà, concrètement, je suis pas dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle dato ktsara, celui que son esprit est trop étroit. Alors, on y va dans les mots. Je suis en bas de la page 178, deux paragraphes avant la fin. Ou mi shedato ktsara, celui que son cerveau, son esprit est trop étroit pour le faire. D'accord? Leida ou leid bonan bigdulatan savaru, son esprit est trop étroit pour connaître et pour méditer sur la grandeur de l'infini de Dieu. Parce que normalement, n'importe quelle personne parmi nous, si j'arrivais à maîtriser mon esprit pour penser 5 minutes à Dieu, 5 minutes, tout de suite mon esprit décollerait. Le problème, c'est que j'arrive pas à le faire. Après, une fois qu'on a décollé, on a décollé. C'est, vous savez, c'est en physique, on explique comme ça. Le plus difficile, c'est de décoller. Une fois que t'es décollé, après c'est fini. Après, t'es parti. Ça demande à n'importe quelle personne qui, on sait par exemple que, quelle est la phase dans laquelle un avion, il consomme le plus.
Au décollage.
C'est-à-dire, au décollage, une fois, j'avais lu un article sur le Concorde. C'est le Concorde. Mm. Le Concorde, lorsqu'il décollait, il avait 120 tonnes de kérosène. 120 tonnes. Que de kérosène. C'est-à-dire, je sais pas si vous 120 tonnes.
Oui.
D'accord. Bah oui, bien sûr.
Un avion de chasse, il a 100 tonnes.
Mais c'est énorme. C'est combien il consomme. D'accord? Et juste de ces 120 tonnes, il y a un tiers pour le décollage. Que pour le décollage.
40. Et tout le reste pour le voyage.
Tout le reste pour le voyage. C'est rien. Après, une fois qu'il est en haut, rouler à 2500 km en haut, c'est rien. C'est rien du tout. Regardez sur Wikipédia, vous allez voir. Tout est chiffré. Tout est chiffré. C'était au grand près là-bas, d'accord? Tout est chiffré. Seulement, il te dit voilà, le plus dur c'est de décoller. D'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent, je me rappelle encore quand j'étais enfant. Non mais vous rappelez le boucan que ça faisait quand il démarre? Le boucan qu'il faisait?
T'as déjà vu le? Ah, t'as jamais vu?
C'est mémorable ça. Hein?
Hein? J'ai fait à Toulouse, donc je voyais, je l'entendais à chaque fois.
T'as vu le boucan que ça faisait? Ben c'est pas, bien sûr qu'il y a un boucan parce que c'est une puissance énorme. Pourquoi? Parce que le plus dur c'est quoi? C'est que t'as un poids énorme. T'as l'essence, t'as les moteurs, etc. Ça pèse très très lourd. Le plus difficile c'est quoi? C'est de faire décoller. Après, une fois qu'il est décollé, c'est facile. D'accord? Pourquoi prendre, même prenez un exemple, je donne des exemples modernes, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre ce qu'il dit dans le Tania. Parce que c'est de la physique, ça. À quelle vitesse la voiture, imaginez une voiture qui a 6 vitesses. À quelle vitesse la voiture consomme le moins?
La sixième,
mais c'est pas logique. Elle roule à combien en sixième? Bon, on va être gentil. Elle roule à combien en sixième?
Hein?
Ah, monsieur Benita. Hein? On va demander à Serge. Elle roule à combien?
Ça dépend. On est limité.
Oui, il y a des voitures qui à 5 vitesses, ils font plus que.
Oui, non, mais attends, ce qui est vrai, qu'une voiture, moi je vois une consommation quand tu roules dans Paris. Tu fais quasiment le double quand tu roules en autoroute.
Pourquoi?
Tu démarres, ça arrête, tu as fait que tu lances.
Mais pourquoi? C'est ça, comment ça se fait? Comment ça se fait?
C'est juste lancer.
Tu t'arrêtes, tu te lances.
Vous savez que même quand vous avez aujourd'hui les voitures, il y a des ordinateurs de bord, tu vois.
Oui, ouais. Tu vois tout dedans.
Hein. Alors la consommation, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, je vais répondre, Rakshnia.
Moi, je demande les gens, ils me poussent derrière, comme ça, ça consomme.
Vous savez, dans la consommation, ils te mettent combien de consommation à l'heure? Kilomètres au 100. Maintenant, le problème, c'est que quand t'es en première, ils te mettent 40 km au 100. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans les nouvelles voitures? Ils mettent plus, ils affichent plus. En dessous de 40 km, ils t'affichent pas. Ou ils te mettent au litre, ils te mettent à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça te rend fou. Tu vois 45 km au 100, tu dis, mais attends, parce que c'est comme ça. Parce que, pourtant, tu vas rouler à 10 km heure, 15 km heure, 20 km heure. Pourquoi? Parce que démarrer quelque chose, c'est le plus dur. Démarrer, c'est le plus dur. Ça veut dire, tu vas être dans l'autoroute, tu vas rouler en sixième à 130, tu vas consommer 20% de ce que tu consommes quand tu es en première.
Vous
êtes d'accord avec moi? Comment c'est possible? En première, je montais à combien? 20, 30, 40?
Il faut bouger la tonne et demie de la bagnole.
Mais pourquoi? À 130, je la bouge pas la tonne et demie? Ah, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, on voit ici que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le système du monde un système très simple. C'est que le plus difficile, c'est de lancer quelque chose en orbite, de le lancer. Une fois qu'il est lancé, d'accord? Oui, bien sûr. Ça part juste pour le décollage. Après, c'est fini. Alors, pourquoi je vais vous montrer ça? C'est la même façon. Quand je fais ma tfila, le plus difficile, c'est le décollage. Le plus difficile, c'est les 5 minutes qu'il me faut pour me poser et pour commencer ma tfila, pour me mettre dedans. Comme j'ai beaucoup de mal à faire ces 5 minutes, le reste suivra pas. Une fois que t'as bien démarré, après ça part. Une fois que t'as démarré, que t'es dans ta tfila, t'as plongé dedans, c'est parti. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à ça. C'est-à-dire, des fois, tu essayes, qu'est-ce que ça passe pas? Alors, qu'est-ce que je fais si ça passe pas? Alors, dis-le de Morazaken, celui qui n'arrive pas. Et j'arrive pas. J'essaye de me concentrer. J'arrive pas à décoller. Donc, du coup, je reste par terre. Je sens pas que ma tefila me prend, et pourtant j'essaie. Oui, mais il arrive pas maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive pas. Il arrive pas, il reste bloqué par terre. Il reste accroché au sol. Donc, les holid ahava, mi binato, bidgalut, libo, vechen, aira, me mocho, ufacha, dachem, belibo. Il arrive pas à avoir une réflexion assez puissante qui va l'aider à générer un sentiment d'amour envers Dieu et de crainte envers Dieu. Parce que si tu réfléchissais sérieusement, tout de suite ton cerveau, au bout de quelques minutes, stop, il s'enclenche et tu te mets à aimer Dieu et craindre Dieu. Mais j'arrive pas à faire. Alors qu'est-ce que je fais? J'arrive pas. Là, il dit la demoiselle Zaken, si tu n'arrives pas, rak, chez Zoher, ou me horer, et avativi, t'as m'souter, et belibo. Il dit, il y a quand même une solution pour toi. Ah, c'est quoi la solution? Elle m'intéresse, cette solution. Comment on fait pour les rater comme nous? Comment on fait? Comment tu fais? T'arrives pas, ça prend pas. Comment tu fais? Il te dit, il y a une solution. C'est quoi la solution? Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 18. Chapitre 18, on avait expliqué que chacun de nous a un amour caché envers Dieu. Seulement, on le sait pas. Alors là, on va rentrer dans un nouveau registre. Et tu dis, écoute, je comprends. T'arrives pas à générer de nouveaux sentiments. D'accord. Bon, très bien. Ton esprit, il est étroit. Pour les affaires, c'est très large, mais pour la Torah, c'est un esprit qui est étroit. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, écoute, tu sais quoi? On va pas chercher maintenant à générer de nouveaux sentiments. T'as raison. C'est trop compliqué. Ça passe pas. On va essayer de faire appel à ce que tu as déjà en toi. Est-ce que chacun de nous a déjà en soi? Chacun de nous, de série, a déjà un amour vers Dieu. Seulement, on cherche de nouvelles choses. Ça veut dire, du coup, comment j'ai envie de faire une fila, j'ai envie de trouver de nouvelles choses. Et écoute, c'est quoi? Si tu sens que t'arrives pas avec de nouvelles choses, essaye de faire avec ce que tu as déjà. Concrètement parlant, ça veut dire quoi? Essaye de faire avec ce que j'ai déjà. Ça veut dire, il te dit, regarde, pose-toi une question très simple. Imagine-toi, maintenant, qu'il y a quelqu'un qui vient te voir, un goy, qui vient te voir, et qui te dit, convertis-toi au christianisme ou je te tue. Qu'est-ce que tu fais? Posez-vous la question maintenant chacun. Hein? Je le tue, pas mal. Bien sûr, je le tue. Mais maintenant, si j'arrive pas à le tuer, qu'est-ce que je fais? Posez-vous la question. Imaginez qu'on est que Le Pen il passe et que et qui a pris encore pire que Le Pen, d'accord, etc. Hein?
Ça m'est arrivé une fois, moi.
Quoi?
De gens comme ça qui me demandaient si je voulais devenir musulman et je passe pas la porte si je deviens pas, quoi.
Bon, musulman, c'est autre chose déjà.
Oui, bon, c'est quand même, ça reste quand même une con.
Non, musulman, c'est pas l'idolâtrie, c'est une bêtise, mais c'est pas l'idolâtrie.
Oui,
non,
mais c'est juste pour t'inspirer du fait.
Alors, ma question est très simple. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que chacun de nous aurait fait maintenant? Si maintenant, je suis là, et il y a quelqu'un qui vient me voir avec un pistolet, qui est très sérieux, et qui me dit, convertis-toi au christianisme ou je te tue. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait les juifs au fil des générations?
Parce qu'on, attendez, ils ont fait le contraire. Ils se sont laissés mourir pour ne pas se convertir. Mais maintenant, si je me laisse mourir pour ne pas me convertir, je rends service à qui? À mes parents, à Dieu, à la société, à mon rabbin?
Non, 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 ça c'est pas vos affaires.
Mais comment c'est pas mes affaires? Si, c'est mes affaires.
Non, c'est pas vos affaires, parce que...
Je meurs, je suis inutile.
Mais qui vous dit à quoi vous servez?
Mais je sers à ma famille, je sers à...
Le même Dieu qui vous a demandé de vivre, il vous a dit que lorsque l'enjeu est la croyance en Dieu, il faut donner sa vie, c'est tout. Enfin, moi, décider. Alors, attendez. Je prends maintenant, on va essayer de pousser le raisonnement un peu plus loin. Donc, j'ai une question très simple à me poser, une question que je vais me poser à moi-même. Je dis, attends, je comprends pas. Tu es prêt à donner ta vie pour Dieu? Donner ta vie, tu es prêt. C'est-à-dire, on te dit, voilà, s'il y a une situation dans laquelle on te dit, il faut mourir pour Dieu, t'es prêt à mourir pour Dieu. Et on te demande de te concentrer 5 minutes pour faire une filette, t'es pas capable. Comment on peut expliquer ça? Il dit, où est le bug ici? Vous comprenez le problème? Ça veut dire, t'es capable de faire des choses extraordinaires, mais une chose simple, t'es pas capable de faire. Je vais vous donner un exemple très simple. Et je vais vous donner un exemple peut-être un peu plus moderne. D'accord? Imaginez, par exemple, quelqu'un, qui est là, son fils il lui demande, papa, est-ce que tu me rends un petit service? Maintenant, le père il a pas envie de le faire, etc. Il se prend la tête, il va pas le faire. Bon. Maintenant, je vais lui poser une question à ce père. Je vais dire, dis-moi, imagine-toi que ton fils est perché au fond d'un trou. Enfin, pas perché, il est tombé au fond d'un trou et qu'il t'appelle, papa, sauve-moi. Est-ce que tu vas aller le sauver?
Bien sûr.
Oui. Bien sûr. Je dis, mais même s'il faut mettre ma vie pour ça, je vais mettre ma vie en danger pour aller le sauver. Alors, je dis, je comprends pas. Comment ça se fait? Que pour aller faire quelque chose d'extrême, t'es capable de le faire? Et pour faire quelque chose de simple, un service, tu ne le fais pas. Et ça, quand vous réfléchissez, c'est un problème auquel on est confronté toute notre vie. Ça veut dire que des grandes choses, on est capable de faire, Mais des petites choses, des fois, on ne fait pas. On ne fait pas. Alors, là, il te dit, la Morazek, il te dit, écoute, on va pas maintenant commencer à changer le monde. Tu dis que t'arrives pas, t'arrives pas. Mais j'ai une question à te poser. Comment ça se fait que dès qu'il est question de donner sa vie pour Dieu, de mourir, t'es prêt à mourir, et ce même Dieu, il te dit, écoute, maintenant, je ne veux même pas de mourir. Je te demande de te concentrer 5 minutes pour moi. Ah, j'arrive pas. Pourquoi t'arrives pas? T'étais prêt à mourir pour moi et t'arrives pas à te concentrer 5 minutes? Comment ça marche? Comment c'est possible? Vous comprenez ma question? Et c'est une question très sérieuse qu'on pose. Ça veut dire qu'en vérité, c'est là qu'on se rend compte, qu'en vérité, on se trompe tout seul. On se trompe nous-mêmes tout seul. Une fois, vous savez, il y a une fois un enfant qui est venu voir son père. Il lui a dit, papa, dis-moi. Son père gagnait très très bien sa vie, mais il était très occupé. Un juif américain. Vous savez, les juifs américains, ils partent très tôt au boulot, ils reviennent très tard, etc. Et une fois, le fils, il pose la question à son père, il lui dit, dis-moi, papa, combien tu gagnes à l'heure? Alors, le père, il dit, qu'est-ce que ça te change? Tu manques quelque chose? T'as ta chambre, t'as ta chambre de jeu, t'as ton truc, etc. T'as ton jardin, t'as 4 vélos, t'as 5 voitures. Qu'est-ce que tu me demandes combien je gagne? Il dit, non, mais papa, combien tu gagnes? Non, mon fils, je te réponds pas combien je gagne. Dis-moi, si t'as besoin, tu veux un cadeau, je t'achète, y'a pas de problème. Bon. Alors ensuite, bon, le fils revient à la charge quelques jours plus tard. Dis-moi, papa, combien tu gagnes par heure? Le père, il veut pas répondre. Et comme ça, plusieurs fois, le fils qui demande, papa, combien tu gagnes à l'heure? Alors, à la fin, le père, il dit, bon, tu veux savoir? Bon, très bien, je gagne $50 de l'heure. C'est bon? T'es content maintenant? Et là, le fils, il sort sa tirelire, il prend $50, il dit à papa, est-ce que je peux t'acheter une heure de ton temps?
C'est beau, ça.
Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai beaucoup aimé cette histoire? Parce que qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire finalement? Qu'est-ce qu'il a demandé le fils? Si ce fils maintenant il était en Thaïlande, je sais pas où, perché là-bas, il faut payer des millions pour aller le chercher. Tu serais parti le chercher. T'aurais fait des crédits sur crédits pour aller le chercher. Mais là il te demande, je veux papa, je veux 5 minutes de ton temps. Je les ai pas. Comment tu les as pas? Pourquoi tu les as pas? Si vous voulez, c'est un petit peu la même chose qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire, tu dis, mais moi, bien sûr, moi, qui pour, je suis là, je suis tout ce que tu veux, Dieu. Moi, je donne ma vie pour toi, je donne tout pour toi, Dieu. Très bien. Je sais pas, moi, je demande 5 minutes. Fais une prière, qu'on se retrouve 5 minutes. J'arrive pas. Et ça, là, de Morazek, te dit, le fait même de réfléchir à ça, c'est déjà une ségoula pour essayer de canaliser son esprit. Quand tu réfléchis, tu dis, c'est vrai, finalement, c'est pas grand-chose qu'on me demande. Me concentrer 5 minutes. Vous voyez, c'est-à-dire, on te dit, t'es capable de le faire. La preuve, c'est que tu es capable de faire beaucoup plus que ça. Alors pourquoi 5 minutes t'es pas capable de le faire? C'est ce que dit ici le Morazaken. On va essayer de développer un peu cette idée parce que c'est une idée très profonde. Mais c'est une idée, si on la contrôle bien, on peut aller très très loin. Ça veut dire, en français, il y a un proverbe qui dit qui peut le plus, peut le moins. C'est tout. C'est-à-dire, si t'es capable de faire ça, pourquoi tu peux pas faire ça? Non, ça je peux pas, j'arrive pas. Pourquoi t'arrives pas? Parce qu'en vérité, on se piège tout seul. Je me piège tout seul. Soit je me dis non, ça je peux pas, j'arrive pas. Pourquoi t'arrives pas?
Parce que là, c'est un effort permanent. Tandis que aller chercher mon fils, c'est ponctuel.
Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, mais dans l'absolu, c'est un effort qui dure 5 minutes. Et il n'est même pas tellement compliqué, l'effort.
Non, mais c'est tous les jours.
Très bien. Mais donc, qu'est-ce qu'il fait, Yitzhara? Le Yitzhara, il me piège. Le Yitzhara, il me dit, écoute, ça t'arrivera pas, laisse tomber, c'est trop dur. Ou bien, vous savez, un autre piège du Yitzhara, le Yitzhara, il dit, ça, c'est pas grave. Il va dire, attention, dire ça, par exemple, il va dire, te convertir au christianisme, ça c'est très grave. Bon, on peut pas faire la fila, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Ce qui est faux en vérité, c'est aussi grave. D'accord, c'est très grave. Seulement le Tsara et Tarnak, tu vois, c'est la même chose. Il va dire, allez sauver ton fils en Thaïlande, ça c'est important. Lui donner 5 minutes de temps, c'est pas important. Ce qui est faux en vérité. Parce que c'est aussi important. Pourquoi c'est moins important de lui donner du temps maintenant que de lui donner du temps là-bas? C'est aussi important. Tout dépend où tu veux mettre ton temps. En fait, c'est un esprit de management, ce que je vais vous expliquer ici. Un esprit de management. Et ça, on l'a vu, mamache, on le voit, que les plus grands patrons, etc., ils vont vous dire, le plus compliqué, c'est quoi? C'est de réussir à se concentrer à une tâche, peu importe la tâche. Qu'elle soit grande, qu'elle soit petite. Maintenant, j'ai décidé que je suis au golf, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, j'ai décidé que je suis avec l'homme de ménage, il n'y a personne d'autre. Il va voir le banquier qui appelle, il n'existe pas le banquier. Et ça, vous savez, où on le retrouve dans la Torah? On le retrouve dans la Torah chez un grand maître qui s'appelait le Rajba. Le Rajba, c'était un grand maître, je vous en ai parlé de ça, ça fait quelques semaines. Le fameux, celui qui était docteur, etc., etc.
C'est gérer le temps.
Et lui, il a expliqué que son secret, c'était qu'il apprenait à vivre le moment donné. Enfin, ne cherche pas à vivre ce qu'il y a après ou ce qu'il y a avant. Fais ce qu'on te demande maintenant. Et si on réussissait à faire ça, on pourrait faire des choses extraordinaires qu'on n'a même pas idée de ce qu'on est capable. C'est exactement ce que disait Morazaken. Morazaken, tu dis que tu n'as pas le temps, tu dis que tu n'y arrives pas. Mais pose-toi une question simple. Tu dis, regarde ce que tu as dans ta machine. Ta machine, t'es capable de donner ta vie pour Dieu. T'es pas capable de donner 5 minutes pour un Kadosh Baruch Hu. Là, quand toi, tu dis c'est vrai. Quand tu réfléchis une deuxième fois, tu dis finalement c'est vrai. C'est pas si compliqué que ça de donner 5 minutes. Et tu vas essayer une première fois, une deuxième fois. Et le fait même que tu sais que tu peux le faire, tu vas réussir. Tu vas réussir. Je vous promets, essayez, vous allez voir que ça marche. C'est pas du, ce que je vous dis, c'est pas compliqué. Le plus difficile, c'est de se concentrer 5 minutes. Même une minute. Ce soir, demain matin, quand vous allez faire votre tefila, essayez avant de faire votre tefila de vous arrêter une minute. Même si vous êtes pressé, une minute. Arrêtez-vous une minute. Ne commencez pas. Laissez le lit fermé pendant une minute. Ne mettez pas les tefilines. Tu arrives à la synagogue, tu restes une minute à regarder le mur. Essayez, je vous promets. Essayez, revenez me voir. Vous allez me dire, Mendy, ça marche, c'est du tonnerre. Je vous promets. Si je vous dis, c'est que je le fais. Non. Tu arrives à la synagogue, tu peux le faire chez toi si tu veux. Mais bon, tu arrives à la synagogue, tu te poses.
Tu décompresses.
Il y a personne. Il y a pas. Tiens, mais tu lis. Non, tu mets rien du tout. Mets rien. Et là, le livre. Laisse tranquille le livre. Pose le livre.
Mais les idées qui vont traverser votre esprit,
c'est ça.
Vous ne pouvez pas les arrêter.
Si. C'est ça. Pendant 7 minutes, ce qui se passe. Pendant 7 minutes, je vais faire le vide dans ma tête pour dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Où je suis là? Qu'est-ce que je
peux déconnecter.
Et là, celui qui me dit je peux pas le faire, je lui dis ne me dis pas que tu peux pas le faire. Parce qu'en vérité, le combat que tu as eu ce matin avec ton Yitzhara pour venir, à la synagogue était beaucoup plus dur. Parce que t'étais crevé, t'es parti dormir à 3h du matin, et tu t'es levé ce matin pour venir prier à Shacharit. Donc tu vois que t'es un monstre. C'est énorme de faire ce que tu as fait. On dit concentre-toi 5 minutes, une minute pour commencer, mais j'arrive pas. Comment t'arrives pas? Parce qu'en vérité, je crois que j'arrive pas. Je me dis que j'arrive pas. Mais en vérité, si je me rends compte, mais tu t'imagines, l'effort que tu as fait ce matin pour te lever, il vaut 10 000 fois plus que l'effort que tu fais maintenant de te concentrer. Seulement, c'est quoi le problème? C'est que je me suis tout seul, je me suis verrouillé, je me suis bridé. J'ai dit, ah, j'arrive pas. Je suis venu, c'est bien. Ça y est, je suis venu. Non, mais dis, mais c'est dommage, t'es venu à l'aéroport et t'as pas pris l'avion. T'es venu à l'aéroport, l'avion il est décollé, t'étais pas dans l'avion.
Ouais, c'est dormir.
Non, t'étais à l'aéroport quand même. C'est bon, c'est l'ambiance. T'es dans l'aéroport, tu vois. On dit comment c'est, j'étais à l'aéroport, moi.
Mais quand il n'y a rien, tout est possible. Donc, tu vois, des deux côtés, t'es cool.
Voilà, donc ça c'est l'idée que je vais développer maintenant. Une, très très important. Je vous promets, faites l'essai. Essayez même une minute. Une minute de vous poser et d'avoir la kavana. Et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Seulement, on croit qu'on peut pas le faire. On dit non, c'est pour les rabbins, c'est pour les je ne sais qui. Non, c'est pour tout le monde. Et vous allez voir qu'après votre fila, c'est une autre fila. C'est la même chose. En vérité, c'est une technique que je vous donne que vous pouvez appliquer dans tout. Par exemple, tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous à la maison. D'accord? J'espère qu'il y a une femme. Hein? Voilà. Non, attendez. Il y a une femme qui vous attend à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as pas réfléchi au fait. Tu t'es pas préparé au fait que tu vas rentrer, tu vas voir ta femme. Qu'est-ce que tu fais? T'es parti d'une action à l'autre, c'est-à-dire du cours, t'es parti, t'as pris la voiture, t'es rentré à la maison, etc. Et du coup, t'es devant un fait accompli qui s'appelle ta femme. Voilà, elle est là, et un fait accompli, elle est présente, d'accord?
C'est un meuble.
D'accord? Et après, elle dit, mais pourquoi tu me parles pas? Comment c'était, etc. Elle dit, pourquoi tu me parles pas? Et après c'est parti en vrille. Pourquoi il y a eu ce problème? Pourtant, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu dises bonjour, elle veut que tu dises comment c'était, elle veut que tu dises une minute, après c'est fini. C'est tout ce qu'elle te demande. Pas besoin de plus que ça.
C'est le mur, quoi.
D'accord?
Devant le mur.
Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu dis, oulala! Tu t'es pas préparé, en vérité. Je me suis pas préparé. Donc, tu rentres directement comme ça. Tu rentres à chaud ou à froid. D'accord? Tu rentres, t'es pas préparé, et tu poses la question. Attends, deux secondes. Ah, non, écoutez ce que je veux dire. Maintenant, on te dit, imagine-toi. Regarde, tu rentres chez toi à la maison, avant de mettre le bip pour faire ton code, prends 5 secondes. Tu dis, où je vais maintenant? Où je vais? Ah, je rentre chez moi. Ah merde, t'appuies sur le bouton de l'ascenseur. Où je vais maintenant? Et tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui est à la maison, qui t'attend, à qui tu dois dire bonjour, qui tu dois parler, etc. Quand tu te prépares à quelque chose, ça n'a rien à voir. C'est si tu viens directement, tu ouvres la clé, etc., tu rentres comme un clochard. Eh ben oui, ça marche pas comme ça. C'est la même chose. Si je fais ma tefila et je rentre directement comme ça, j'attaque, ça marche pas. Si je rentre, je me prépare, je réfléchis, etc. Et là, je rentre, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire cet essai avec n'importe quelle chose dans votre vie et vous allez voir que ça marche. Mamash, ça marche. Même, par exemple, vous pourrez même demander aux commerciaux. Les meilleurs commerciaux vous diront comment ils font avant de rentrer chez un client. Ils rentrent pas directement comme ça. Moi, je les vois, les commerciaux. Tu les vois dans leur voiture. Tu le vois dans la voiture, il est déjà arrivé, il s'est garé. Des fois, il reste un quart d'heure dans sa voiture.
Il se concentre de ce qu'il va dire.
Et il fait rien. D'accord, n'est-ce pas? Les commerces, vous confirmez? Il fait rien, sa voiture. Et tu le vois, il regarde le mur, il regarde la roue. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il essaye de déconnecter de ce qu'il est en train de faire pour essayer de rentrer dans la tête et dans l'esprit du client qui va aller voir. Et là, quand il arrive, il doit avoir tout son esprit pour le client. Parce que s'il n'a pas tout son esprit pour le client, il a perdu. À moins que le client, il le supplie pour acheter le produit. Mais bon, c'est pas une vente dans ce cas-là. T'es un distributeur. Ça, c'est un distributeur, ça. Vous savez, si je vends à quelqu'un qui toute la raison devait acheter, j'étais un distributeur. C'est pas un vendeur, ça. Un vendeur, c'est quand je vends à quelqu'un qui comptait pas acheter ce que je vends. Et ça, pour être capable de le faire, il faut être dedans et il faut se préparer. Pas préparation, ça marche pas. Hmm, c'est?
Non, aujourd'hui, c'est moins rentré la persuasion du.
Pourquoi? Qu'est-ce qui persuade aujourd'hui alors?
Tout l'avant-vente, c'est tout ce qu'ils font, le marketing.
Eh bien, l'avant-vente, c'est la préparation. Très bien, mais l'avant-vente, c'est la préparation. Donc, tu confirmes ce que je dis? Sauf que tu dis que ça passe pas par le vendeur, ça passe par d'autres médias, d'autres moyens.
Non, le vendeur a un rôle quand même. T'as toujours les 20% qui restent du final, mais 80%.
Donc, il y a une préparation. Eh bien, ok, on continue. Alors, la même façon, en bataille, la même façon. Chacun de nous doit essayer d'avoir la kavana dans la tefila. Et c'est pas compliqué, je vous promets, c'est pas compliqué. Essayez juste de vous poser, quand vous rentrez à la synagogue, essayez de vous poser une minute. Une minute, juste une minute, essayez de vous poser pour dire, qu'est-ce que je fais? Où je vais? D'accord? Voilà, on a par exemple ici deux personnes qui vont aller chez le Rabbi Bezrat Hashem en fin de semaine. On leur souhaite bon voyage, Bezrat Hashem. D'accord? C'est la même, trois? Qui voyage? Ah oui, bien sûr, trois personnes. C'est la même chose. Mais je vous donne la technique. Quand tu vas chez le rabbi, tu peux pas aller chez le rabbi à froid comme ça. Tu rentres direct comme si on allait à la poste. On rentre pas comme ça. Prépare-toi d'abord. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais? Pour qui je vais? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais raconter? Pourquoi j'ai besoin d'aller? Pose-toi ces questions. Et tu vois, quand tu poses ces questions, tu vas découvrir des choses extraordinaires en toi. Des choses extraordinaires, pas des choses mauvaises, auxquelles tu te doutais même pas que tu avais en toi. Sinon, t'as jamais pris le temps de t'arrêter, t'as même pris le temps de les écouter. Et ça, c'est quelque chose de très profond, ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que finalement, si je vous pose la question, par exemple, je te dis, est-ce que tu connais ta femme? Est-ce que tu connais vraiment tes enfants?
Bien sûr que non.
Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir qui est ton fils? Posez-vous la question. D'accord? Alors, regarde ton fils. Hein, oui, c'est une question sérieuse que je pose. Ça veut dire qu'en vérité, je t'ai expliqué. En français, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'en général, on est dans ce que les gestionnaires appellent, on est constamment dans ce qu'on appelle la gestion de problème. Ça veut dire qu'en vérité, tu te lèves le matin, ce que tu espères, c'est qu'il n'y a rien.
Exactement.
Tu es pourvu que tu n'as rien aujourd'hui. Je veux rien.
Voilà.
Mais après, il y a des problèmes qui arrivent. Papa, j'ai faim. Alors, il faut lui donner à manger. Courant. Papa, il faut les amener à l'école. Ah, on va les amener à l'école. Ah, il est revenu fatigué. Ah, voilà. Ça veut dire qu'on n'arrête pas de gérer des problèmes. Il n'y a aucune préparation. Aucune. Et ça, ça marche pas. C'est la même chose pour la tefila. Comment tu veux que ça marche pour la tefila? T'arrives directement, tu règles des problèmes tels qu'ils arrivent.
La mise en place, c'est le plus important.
C'est le plus compliqué.
Quand t'as vu la mise en place?
Après, ça part. C'est parti. Ça, c'est la kavana. D'accord? Bon. J'essaie de donner des exemples de notre monde, hein, mais bon, on va avancer un petit peu.
Tu veux la femme tout de suite?
Hein? Alors, je suis venu de la page 119. Rak seulement, chez Zoher, ou Meorer, et Tava, Tivit, Amsouteret, Belibo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis, tu vas d'abord, et si tu vois que ton esprit est trop étroit, et que tu n'arrives pas à capter, tu n'arrives pas à être intéressé par la Torah, t'arrives pas à être intéressé par la kavana de la tila. J'arrive pas, ça passe à côté. Qu'est-ce que je fais? On te dit, il faut que tu essayes de faire appel à l'amour caché que tu as au fond de toi en Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, au fond de toi, tu aimes Dieu. D'où tu sais? La preuve est très simple. En essayant de développer et de dévoiler cet amour caché que j'ai au fond de moi, d'essayer de le développer au moins dans ma tête. Que mon esprit accepte au moins théoriquement de donner ma vie pour Dieu. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Vous savez qu'il est écrit dans les livres que lorsqu'on arrive à la Neila, pendant la Neila, et qu'on dit Shema Israël, Hashem Ekenu, Hashem Echad, et qu'on répète trois fois Baruch Shem Kenu Machotol Ambaed, et Hashem Elokim. À la fin de la Neila. D'accord? Il est écrit dans les Sfarim, et probablement que c'est écrit dans le Marzor que vous avez. Il est écrit qu'à ce moment-là, on doit avoir la Kavana, que si on devait donner notre vie pour Dieu, on aurait été prêt à le faire. Et c'est écrit que celui qui a cette kavana, Dieu il considère comme si qu'on a donné sa vie pour lui. Ça veut dire que si à ce moment-là, vous avez la kavana, vous vous dites, s'il fallait donner ma vie, j'aurais donné ma vie pour Dieu maintenant. Si tu penses à ça, Dieu considère comme si que tu l'as fait. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce que concrètement je suis mort?
Pourquoi non. Je dois le penser à ce moment-là?
Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, c'est très simple, tu dis à l'Admorazaken. L'Admorazaken te dit, le fait même de penser et d'arriver à la conclusion que théoriquement, tu es capable de le faire, déjà, ça éveille un sentiment d'amour vers la cadeau. Tu dis, attends, je suis capable d'aller loin quand même pour lui. Le fait même de me convaincre théoriquement que je suis prêt à aller jusqu'à là, ça te calme tout de suite. Ça veut dire que par exemple, voilà, imaginez par exemple quelqu'un qui te prend la tête, ton fils te prend la tête, ta femme te prend la tête. Et tu penses à une situation extrême. Tu dis, imagine-toi ça il est arrivé. Est-ce que je serais parti pour aller te sauver? Tu dis, ah, bien sûr, je serais parti. Et là, tu te dis, mais attends, ah, situation extrême, je serais parti, mais ça, je peux pas le faire, le petit service. Je vais m'accrocher avec elle pour une babiole. Alors que, si, imagine-toi, Chas v'Shalom, la femme d'Arafat, d'accord? Elle avait un accident. Elle a un accident de voiture. Imaginez un homme, il est accroché grave avec sa femme. Il est accroché grave. Elle l'appelle, elle lui dit, j'ai fait un accident de voiture, je suis gravement blessé, je suis à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Même s'il est grave. Il fonce. Tiens, pourquoi tu fonces? Ça fait 5 minutes, tu dis, je peux pas me la voir en peinture. Alors qu'est-ce qui a changé? Non mais attendez, je suis sérieux, c'est une question comme ça que je vous pose. Ça fait 5 minutes, si je pose la question, si je peux pas me la voir en peinture. Je peux même pas m'imaginer. Et là, on dit, elle est à l'hôpital, elle est blessée, tu vas la voir. Pourquoi c'est normal? Mais qu'est-ce qui est normal? Est-ce que c'est logique?
Moi, je pense qu'il y a deux événements complètement différents. Il y a un événement.
Non, attends. D'abord, il faut que je pose la question.
Il lui dit, tu m'emmerdes et tu satisfies comme ça, basta. C'est-à-dire où il y a des trucs qui sont activés.
Donc, il n'aime pas.
Ils n'ont pas lieu d'être.
Donc il n'aime pas.
Puisqu'ils s'aiment les deux.
Non, attends.
Ils n'ont pas besoin de te taper sur la tête.
On lui dit, est-ce que tu aimes ta femme? Il dit, je la déteste. Je la supporte pas. Je peux plus me la voir en peinture. J'en ai déjà entendu des comme ça. D'accord? Les gens qui te racontent des trucs.
Non, mais c'est violent, ça vient.
Eh ben voilà, on te dit, mais attends, moi je vous ai expliqué, j'ai réglé plus d'une fois des problèmes de Shalom Bayit, de gens, d'accord, de la communauté et d'autres, comme ça. Ça veut dire, je lui dis, imagine-toi qu'il arrive une situation catastrophique comme ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Bien sûr, je serais parti, tout de suite pour l'aider, pour l'assister, etc. Je dis, donc tu vois que tu l'aimes. Il dit, oui, bien sûr, il va me prendre la tête, etc. Je dis, mais attends, d'accord, réfléchis. Non mais réfléchis, tu vois, tu serais parti, t'aurais été prêt à mettre ton boulot de côté, à perdre ton boulot pour ça même s'il le faut. Tout perdre, tout les mettre de côté pour elle. Ah pourquoi maintenant t'arrives pas à mettre de côté parce que non, elle te touche un peu ton ombre, tu fais le mongol, pourquoi t'arrives pas? C'est ça le problème, c'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te prend sur les détails. Tu dis des grandes choses, fais-les, mais les détails t'attrapent. Ben, c'est exactement la même chose pour la Kavana. Le Yetzer Hara, il dit, vas-y, fais Kippour, fais Rosh Hashanah, fais les grands trucs. Mais dès que je suis juste une petite fille, la petite cavale, une minute, il va te tuer pour cette minute. Il va te dire, non, tu peux pas, laisse tomber, t'arriveras pas. Ça,
il y a une expression qui dit,
le diable se cache dans les détails. Bon, je voulais pas le dire, c'est pas de chez nous, c'est pour ça.
Mais c'est vrai.
C'est la vérité, ouais. C'est pas de chez nous, hein, ouais.
On peut pas tout inventer.
Oui, bon, mais bon. Quand je dis c'est pas de chez nous, c'est vraiment pas de chez nous.
C'est un peu ça, c'est le Yetzer Hara.
On tourne la page.
Pas oublier ton anglais, hein.
L'anglais.
Que dès les dof kabo nafsho eloki tulvushea ou le kalelan beyichudo verduto. Non, on va poser une question très simple. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce juif, on lui dit, voilà, tu vois, t'étais prêt à donner ta vie pour Dieu. Pourquoi t'étais prêt à donner ta vie pour Dieu? T'étais prêt à donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'en vérité, au fond de toi, Dieu, tu l'aimes. Tu dis, oh, mais je l'aime pas, je le connais pas. Bien sûr, tu l'aimes. Regarde.
Ceux qui l'ont pas donné pendant l'Inquisition, qui n'ont pas pu le donner parce qu'ils n'arrivaient pas.
Non, attention. C'est pas qu'ils l'ont pas donné.
Ils n'ont pas trouvé la force suffisante, mais ils sont pas convertis.
Ils sont convertis que de façade, ce qui n'était pas bien aussi, mais ils sont convertis que de façade. Va me trouver un juif qui s'est vraiment converti de façade et à l'intérieur.
On dit par exemple que
est-ce que dans l'histoire du monde on a déjà eu un exemple? Mais il n'est pas né dans la Torah, lui, qu'est-ce que tu veux?
Oui.
Donc ça n'a rien à voir, c'est pas un bon exemple. Prends-moi un exemple d'un juif. Bah oui. Il y a des chrétiens qui sont convertis qui sont devenus juifs, tu en connais?
Eh ben j'y sais.
Très bien.
J'y sais.
Quoi? Eh ben exactement.
L'acrobate, c'est un vrai juif.
Il s'est pas converti, lui.
Non, c'est un juif. Ah ben si.
Du tout, il s'est pas converti, lui.
C'est une branche.
Non, il s'est pas converti. Il a fait des bêtises, il s'est pas converti.
Mais il a dit que c'était lui le.
Il a dit que c'était lui le Messie, etc. Il a raconté des histoires, mais il s'est pas. Il s'est mis à 50, exactement.
Il a ouvert son commerce.
D'ailleurs, c'est une affaire qui marche très bien.
Oui, il est mort juif.
Il a dit qu'on lui
a fait un million. Pourquoi on le maudit que c'est un juif ?
Quoi ?
Pourquoi on le maudit que c'est un juif ?
Prends le maudit qui ?
Ah,
parce qu'il fait beaucoup de mal.
Il y en a d'autres aussi qui ont fait du mal. Hein.
Le mal qui est issu de lui, c'est des millions de morts. On peut même pas compter le nombre de morts qu'il y a à cause de ça. En 2000 ans, on peut même pas compter le nombre de morts qu'il y a à cause de ça. C'est des millions de morts.
Mort
physiquement.
Déjà les
les inquisitions, les croisades, la destruction du temple, c'est des millions de personnes. C'est des millions.
La Shoah.
La Shoah. Monsieur, la raison, la Shoah, c'est quoi la Shoah ?
La Shoah, c'est un taré à moustache qui dit notamment empoisonné l'acrobate.
Et exactement, il est venu du christianisme. Mais il est venu au nom de qui alors ? C'est ça aussi. C'est ça. Ok. Alors, pardon ? Allez-y. Pourquoi après ?
Non.
C'est le monde.
C'est une blague, c'est pour rire.
Non, vas-y, la preuve, c'est
tout à l'heure.
Bon. Travaille. Alors, on continue. Donc ça, c'est ça ce que dit l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken te dit en vérité, au fond de toi, Dieu, tu l'aimes. Dieu, tu l'aimes au fond de toi. Seulement, tu ne sais pas que tu l'aimes, mais en vérité, au fond de toi, tu l'aimes. Et ce n'est pas seulement que tu l'aimes, tu as aussi la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte ? Pourquoi dire, non, la crainte de Dieu, j'ai pas peur de Dieu ? Si, tu as la crainte de Dieu. Vous savez, c'est quoi la crainte ? La crainte de Dieu, je vais vous poser une question très simple. Est-ce qu'un homme a peur de sa femme, d'après vous ?
Non.
Soyez honnête, messieurs. Allez, les Tunisiens, allez, on parle. Hein ? Allez, alcoolique anonyme.
C'est pas une peur, c'est un respect.
Alors attention, il touche un point très. J'entends deux notions très importantes là. Crainte. D'accord ? Et respect. Vous savez c'est quoi ? Et pourtant en hébreu on appelle ça Yira. Vous savez pourquoi ? Parce que des fois on a peur de décevoir. C'est pas que j'ai peur de la personne, c'est pas qu'elle me donne des coups.
Là on a peur de recevoir.
C'est pas.
Je vais te donner.
C'est qu'en vérité quand tu aimes très fort quelqu'un, t'as pas envie de le décevoir. T'as peur de le décevoir.
La vexer.
T'as peur de vexer, de faire du mal. Alors il te dit, sache qu'en vérité de la même façon, au fond de nous, Dieu, on l'aime. On l'aime très très fort. La preuve, c'est qu'on est capable de faire des choses extraordinaires pour lui. Le Yetzara, il nous attaque sur les petits détails. Mais en vérité, on est capable de faire des choses extraordinaires. Et c'est pas seulement qu'on aime Dieu, on a aussi la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu ? La crainte de Dieu, ça veut dire qu'en vérité, on n'a pas envie de décevoir Dieu. Un juif, il est pas bien quand il sait qu'il a fait une gaffe. Et qu'il se fait pas berner par son Yetzara et qu'il fait croire que c'est une petite bêtise, c'est rien du tout. Et qu'il est conscient de la gravité de ce qu'il a fait. Il est pas bien. Pourquoi il est pas bien ? Parce qu'un juif, il a pas envie de décevoir Dieu. Tu aimes quelqu'un, t'as pas envie de le décevoir. Imaginez, tu aimes très fort quelqu'un. T'as pas envie de lui faire de la peine. T'as pas envie qu'il apprenne des choses sur toi, ou t'as pas envie de lui faire croire des choses, t'as pas envie de le décevoir. J'ai pas envie de le décevoir, je l'aime. Alors, il te dit, l'Admor HaZaken, il te dit, c'est la même chose. Chaque juif, au fond de lui, il aime Akadosh Baruch Hu. Étant donné qu'il aime Akadosh Baruch Hu, eh ben, en vérité, il te dit, si tu réfléchis bien à ça, tu te dis qu'en vérité, il te manque pas grand chose en vérité. Il te manque juste la décision de prendre cet amour et de le développer de façon concrète. Et de ne pas le laisser, C'est tout ce qu'on te demande. C'est pas compliqué. Tu crois que c'est compliqué de venir faire une kavana, de faire une mitzvah. En vérité, c'est quelque chose que tu as déjà de série. Vous savez, tout à l'heure, il parlait Yves. Il a dit un point intéressant pour le commercial. Il a dit, le commercial, tu as dit, Yves, il fait combien de parties du travail il fait ? Aujourd'hui. Très bien. 20%. Ça veut dire qu'en vérité, le plus compliqué, c'est quoi ? C'est les 80% qui ont été faits en amont, pour mettre le client en condition, avec des spots publicitaires, avec des tracts, avec des etc., avec des marketing, avec etc., pour le mettre en condition. Parce que, mais il a raison. Attendez, mais après, je vais vous mettre ça par rapport à la Neshama. Parce qu'en fait, il a raison. Le plus compliqué, c'est quoi? C'est que le client arrive à la conclusion intérieure, j'ai besoin de ce produit. Ce produit me parle, ce produit m'intéresse. C'est plus dur, ça. Après, le reste, les détails techniques, est-ce qu'il y aura le budget ou pas dans la boîte ou pas, c'est un détail, c'est une babiole, ça. Parce qu'une fois que le client est convaincu qu'il doit acheter ton produit, il l'achètera, ton produit.
Oui,
d'accord? Il trouvera l'argent pour l'acheter. Ça veut dire que quand tu vas aller voir un client et que le client, il va te dire, monsieur, on n'a pas le budget. C'est pas qu'il n'a pas le budget, c'est que ton produit ne l'intéresse pas. Parce que si ton produit l'intéresse vraiment, il va le trouver, le budget. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est l'affaire du siècle, il va trouver le budget. Seulement, comme pour lui, c'est pas une affaire intéressante, tant que ça l'intéresse pas. Peut-être que ça l'intéresse pas. Alors maintenant, imaginez que quand je parle de Dieu, nous, on pense que quand on parle de Dieu, il y a deux choses. D'abord, il faut m'intéresser à Dieu, et après, il faut signer, il faut faire la mitzvah. Te dis la de Morazek et te dis c'est faux. Au fond de toi, t'es déjà intéressé par Dieu. T'as déjà signé. Donc en vérité, les 80%, ils sont déjà faits. Ça change tout, ça. En vérité, ce qui manque maintenant, c'est les 20% de la signature, c'est tout. Prendre ta kavana, prendre ta tête et décider d'avoir la kavana. En vérité, au fond de toi, tu l'aimes déjà, Kadosh Baruch Hu. C'est un truc de fou quand on dit ça. C'est-à-dire, en vérité, au fond de moi, je suis déjà intéressé par le produit. C'est pas que je dois me convaincre du produit, que le produit est bon, que le produit est intéressant, que le produit est rentable, que le produit est bon pour moi. Ça, au fond de moi, je suis déjà convaincu. Ça, c'est un cadeau extraordinaire qu'on a. Vous savez d'où on a ce cadeau? Ça, c'est un cadeau que Dieu a donné à Abraham Avinu. Il a donné ce cadeau. Abraham Avinu, il a découvert Dieu par ses propres moyens. Alors, Dieu, il a dit, je donnais le cadeau. Je donnais un cadeau, toi, tu m'as découvert par tes propres moyens. Et toi, t'as pris, comme on l'a expliqué, ça fait quelques semaines, toi, t'as pris 37 ans pour me découvrir. Je donnais un cadeau. Que tes enfants, ils n'auront pas besoin de faire la même démarche que toi. Tes enfants, ils auront ça inné en eux.
Ils vont naître avec.
On n'a même pas idée du cadeau qu'on a. Il a donné ça. Dieu a donné ce cadeau à aucun autre peuple. Aucun autre peuple n'a reçu ce cadeau. Ce cadeau d'avoir un amour inné en Dieu. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaka, il te ressort ça. Tu dis finalement, nous on aimerait que tu réfléchisses avec ta tête pour essayer de comprendre et pour essayer de penser d'avoir la kavana. Mais si tu vois que tu n'arrives pas, on te dit bon, alors si tu vois que tu n'arrives pas, essaie vraiment de faire appel à l'amour caché que tu as en toi. Dis-toi que tu as déjà ça en toi, que finalement, c'est pas quelque chose de compliqué. Et continuellement des petites choses. Et quand tu réfléchis à ça, et bien automatiquement, tu arrives plus facilement. Tu as déjà l'amour, tu as déjà la crainte. On va avancer un petit peu dans les mots, après je vais développer encore. Alors je suis au milieu de la page 180. Ubekavanazo ou sarmera veosetov. Avec cette kavana, avec simplement la kavana que je viens de dire, ça veut dire d'arriver à la conclusion que j'ai un amour et une crainte de Dieu inné en moi. Juste avec ça, ça peut déjà m'aider à repousser la vérote. Ça veut dire à ne pas transgresser les misettes de la vérote négative, à faire les misettes positives, à étudier, à prier, d'accord, à faire les bénédictions. Je veux une question très simple à vous poser. Je vais me poser une question. Je vais me dire, dis-moi, Mendy, est-ce que tu as jeûné à Kippour? Bien sûr, jeûné à Kippour. Est-ce que c'était facile pour ton corps de jeûner à Kippour? Non, pour mon corps, c'est pas facile de jeûner à Kippour. Parce que mon corps, un corps normal, il a besoin de manger. D'accord? C'est normal, il a besoin de manger. Maintenant, pourtant, est-ce que ça m'est venu à l'esprit un seul instant de manger à Kippour? Non, même pas ça m'est venu à l'esprit. Pourtant, c'est dur. C'est compliqué. Tu vas raconter à un gars, tu sais, on est parti, on a jeûné une journée entière, on a fait la prière toute la journée, et on n'a pas mangé, on n'a pas bu, etc. Il dit, ah bon, chapeau, franchement, un jour entier. 24 heures. C'est pas on jeûne la journée, et le soir on fait des grands festins. D'accord? Le soir, la nuit, comme les autres. D'accord? C'est 26 heures, presque 26 heures, pendant lesquelles on n'a pas mangé. C'est très dur. Et pourtant, étant donné que j'aime Dieu, c'était facile, je l'ai fait. Alors j'ai maintenant, on te demande une minute de ton temps. On te demande 30 secondes, retiens-toi de ne pas faire cet avéra. T'as un kiff qui va durer 10 secondes, retiens-le de ne pas le prendre. Ah, j'arrive pas. Pourquoi t'arrives pas?
C'est la prière qui va t'aider à le faire.
Pourquoi t'arrives pas? T'arrives pas parce que tu crois que t'arrives pas. En vérité, tu arrives, t'as un moteur qui est capable d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ce moteur, il est capable de tout faire. De jeûner, de pas dormir, de donner sa vie. Il est capable de tout faire, ce moteur. Alors, s'il est capable de tout faire, pourquoi tu fais pas des petites choses? Et quand on réfléchit à ça, habituez-vous, je vous promets, c'est des choses qu'on, à la Yeshiva, on s'habitue beaucoup à réfléchir comme ça. Essayez de réfléchir comme ça, vous allez voir que ça marche. Et réfléchissez comme ça par rapport à votre femme, par rapport à vos enfants, par rapport à Dieu, par rapport à votre travail. Et vous allez voir que quand on réfléchit comme ça, tout prend une autre ampleur. Et toutes les choses deviennent beaucoup plus faciles. On rend pas les choses compliquées alors qu'elles ne le sont pas. Je dis, attends, c'est vrai, finalement, si je peux le faire, pourquoi je le fais pas? C'est rien, c'est une petite chose. Une petite kavana, une minute. Qu'est-ce qu'on t'a demandé finalement?
Excusez-moi,
tu les as, les moyens. Seulement, je crois que je suis pas capable. C'est-à-dire, en réalité, je me convainc que je suis pas capable. Bien sûr, tu crois que t'es pas capable, tu vas pas réussir. Mais si je sais au fond de moi que je suis capable, je vais réussir. Alors, il te dit maintenant, et là, je veux continuer sur la tefila. Spécifiquement, je ne vais pas parler ni de la femme ni des enfants, je vais parler maintenant de la tefila. Parce que je pense que vous êtes surtout là pour ça. Alors, velomed, ou mitpalel, ou mevarer, velpirou, chamilot, levado. Tu dis, quand tu fais ta tefila, essaye déjà de faire ta tefila, velpirou, chamilot, levado. Ça veut dire, en pensant seulement au sens des mots. Ça veut dire, il y a un grand piège que beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège. Ils te disent, Moi, quand je fais la tefila, je sens pas que je suis dedans, je sens pas que je vis ma tefila, etc. Donc, du coup, j'ai pas envie de la faire, ça m'intéresse pas, ça me parle pas, c'est machinal. J'ai dit, attends. Est-ce que quand tu as lu la prière, t'as pensé au sens des mots que tu lisais? Même sans sentir. Sans rien sentir. Rien. Juste, tu prends un texte, en hébreu, en français, tu lis la traduction de ce que tu as lu. Est-ce que t'as déjà essayé de le faire? Juste la traduction. Sans kavana, sans rien. Essaye, et tu verras que ça va décoller. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je suis déjà convaincu du produit. T'as pas besoin de me convaincre. Il faut juste décoller. Et c'est ce qu'il te dit, c'est l'admorat Zakaïn. Il te dit, même si tu dis, j'ai aucun amour, j'ai aucune crainte, je suis pas intéressé. L'admorat Zakaïn te dit, c'est pas grave. Tu prends ta tefila, fais ta tefila avec pirouche, amilot, levado. Avec le sens des mots tout seul. Je me rappelle quand on était à la yeshiva, on demandait souvent conseil au mashpia. Le mashpia, c'est le guide spirituel qui t'aide. Et le mashpia, il nous disait qu'il faut faire la tefila plus longuement. Comment ça veut dire que, par exemple, surtout le shabbat, etc., faire la tefila plus longuement? Bon. Alors on dit, mais comment on fait une tefila plus longue? Qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit, vous savez, les vieux chassidim, ils étudiaient un mahamar avant la tefila, et après pendant toute la tefila, ils pensaient à ce mahamar, et ils priaient avec ce mahamar, etc. Bon, vous comprenez que c'est un niveau... Déjà, il faut être concentré pendant l'étude du mahamar. Toi, tu me parles maintenant d'être concentré pendant la prière, après de penser au mahamar que tu as étudié. À qui on parle ici? Et là, le rav, il nous disait, c'est pas comme ça que ça marche. Il disait, quand tu fais ta tefila, d'abord, tu dois te concentrer pour essayer juste de comprendre la traduction des mots que tu lis, c'est tout. Ne pense à rien d'autre. Ni va penser à la façon comment on prononce, est-ce qu'on a prononcé le hé ou le haïn, etc. Non, ne tombez pas dans ce piège. Excusez-moi, je sais, il y a peut-être des Marocains ici autour de la salle ou d'autres, etc. Non, parce que, non.
Pas du tout.
Non, mais, je vais parler. Parce que, non, il y a personne. Non, parce que, non, je suis sérieux. Vous savez, des fois, il y a un piège. Il n'y a pas que chez les Marocains, chez beaucoup. Il y a des fois un piège comme ça. Il y a des fois un piège que la tefila, c'est devenu chez les gens une séance de bonne prononciation. Et de bons airs. Ça veut dire que on est là à être sûr et à intervenir, se poser la question, est-ce que j'ai bien prononcé le mot? Est-ce que j'ai bien mis les bonnes virgules? Est-ce que j'ai bien prononcé le hé, le haïn? Est-ce que j'ai chanté un bon air? Je suis complètement à côté de la plaque là. Mais je suis complètement à côté de la plaque quand je fais ça. Mais sûr, je suis à côté parce que c'est pas ça la tefila. C'est pas ça la tefila. Attendez, excusez-moi. Je vous donne un exemple. Imagine-toi par exemple que tu es attaqué en justice. Bon. D'accord. Ouais. Tu dois te défendre en justice. Ouais. Oh, tu dois te défendre pour gagner de l'auto. D'accord. Tu dois aller. Attends deux secondes. Il y a un texte. L'avocat, il t'a préparé un texte. Un bon texte. Toi, tu prends le texte et tu te concentres sur les virgules. Est-ce que j'ai bien prononcé? Mais on s'en fiche comment t'as prononcé. Ce qu'il voit, c'est le texte, faut voir. Le texte. Lis-le, le texte. D'accord. Oui. Mais l'intonation est importante. Mais c'est secondaire par rapport au texte.
Elle vient avec la compréhension du texte.
Évidemment. Ça veut dire que si on dit maintenant, imagine-toi que tu lis un texte en chinois. Imagine-toi que tu lis un texte en chinois. Et que tu dis oui, mais j'ai mis les virgules à la place. Mais on s'en fiche tes virgules. Mais garde-les tes virgules. T'as compris de quoi tu parles ici? Tu dis oui, mais j'ai bien lu, regarde, j'ai mis la virgule, j'ai prononcé le hé et le haïn, etc. Mais on n'a rien à faire tes virgules. Qu'est-ce qui me parle tes virgules maintenant? T'as compris de quoi tu parles? Et ça, c'est le problème. Tu dis l'admorazaken, il te dit, ne cherche pas des complications. Cherche pas des choses compliquées. Ne crois pas que pour faire une bonne fila, il faut que ça fume à l'intérieur. Il n'y a pas besoin. Il n'y a besoin ni de fumer, ni que ça fume. Il n'y a rien besoin. C'est pas nécessaire. Pour faire une bonne fila, soit t'as une neshama qui est d'un très haut niveau comme un tzaddik. Alors, bon, le tzaddik, il est là, il a la neshama qui capte tout, tu vois. C'est-à-dire, il est là, à peine il étudie un texte, ça rentre. Bon, là, lui, il décolle tout de suite. Mais si t'arrives pas à décoller comme ça, c'est pas compliqué. Prends le texte, prends la tefila, essaye, même juste sur le schéma et sur l'amida, essaye de lire la traduction en français des mots. C'est tout. Te pose pas des questions, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris. Prends la traduction des mots. Pirouche, amilot, levado, seulement.
Sans la prononciation.
Mais c'est-à-dire, concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur ça aux mots que tu lis. Et ça, c'est plus important que tout. Et ça, je vous promets, c'est un piège dans lequel il faut pas tomber dans ce piège. Faut pas tomber dans le piège de vouloir être là. Ça veut dire, je vous donne un exemple, d'accord? Par exemple, t'as quelqu'un qui est en train de lire la tefila. Il fait la moindre petite erreur, t'as 15 gars qui sont sur lui en train de lui reprendre son erreur. Mais pourquoi tu le reprends? Qui t'a demandé de le reprendre maintenant? Mais tais-toi!
Mais ça change le sens de la phrase, du mot, de tout, hein.
Pourquoi toi tu es en train de penser au sens du mot
Si je dis Kolram ou Beram Kol, c'est pas pareil.
Non, mais attendez, attendez. Parce que celui qui a repris, les 15 qui l'ont repris, eux, ils sont en train de penser au sens de ce mot maintenant.
Oui, mais s'il connaît ce mot. Non, non, c'est ce qu'il en est,
ce sont des snipers.
Voilà, c'est des snipers, donc c'est pas bon. Donc il y a un problème. Mais c'est pas que chez les Marocains, ça. Même chez. C'est typiquement juif, ça. Typiquement juif, c'est juif, ça.
Mais c'est bien parce que
l'Admor Hazaken te dit ne t'arrête pas sur les détails. Et d'ailleurs à ce propos, vous savez, je vous partageais avec vous le Ayomium de ce matin. Hein, tu te rappelles l'Ayomium de ce matin sur les Tehillim. Vous savez, le Rabbi de Tzemartzedek, troisième Rabbi de Lubavitch, avait une grand-mère qui lisait les Tehillim avec beaucoup d'erreurs. Sur chaque ligne pratiquement, elle faisait presque pas un mot sans erreur. Elle lisait avec beaucoup d'erreurs. Et ses petits enfants. Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, okay. Ils se moquaient d'elle. Ils disaient, bon, mamie, elle sait pas lire, quoi. D'accord. Elle est âgée. Elle est âgée, ou, bon, elle sait pas lire. D'accord. Ils se moquaient. Presque, ils lui disaient, bon, tais-toi, c'est mieux, quoi. Pourquoi tu lis les Tehillim? Tais-toi, c'est mieux. Il lui disait pas clairement, mais presque, il faisait comprendre. Et le rabbi de Tzemartzedek, il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, vous savez, dans ma vie, j'ai été emprisonné 29 fois. Il a été emprisonné parce qu'il diffusait la Torah et parce qu'il était contre-révolutionnaire. Et à l'époque, celui qui, vous savez, en Russie, c'est pas démocratie, ça rigole pas, c'est, on va en prison et on est content si on sort vivant. Et lui, il est 29 fois. Et il a dit, vous savez, grâce au mérite de qui je suis sorti, parce qu'en général, les gens qui rentrent, ils sortent pas là-bas. D'accord ? Vous savez, grâce au mérite de qui je suis sorti ? Pourtant, lui-même, c'est un érudit. Il a étudié tout le chaste des dizaines de fois. Et il a écrit des commentaires de la Torah très profonds. Et donc, tu veux dire, par quel mérite il est sorti ? Par son mérite ! Il dit non. C'est par quel mérite je suis sorti? Par les mérites des Tehillim de ma grand-mère. Quand j'étais en prison, elle faisait des Tehillim pour moi. C'est ces Tehillim qui ont brisé toutes les limites. Et il a dit là-bas dans cette phrase, dans le AMM de ce matin, il a dit la chose suivante. Il a dit, sachez que les Tehillim, ça brise toutes les limites, ça monte directement chez Hachem. Il n'y a rien qui peut bloquer les Tehillim. Quand je fais une prière, bon, j'essaye une clé. Ben, des fois la clé elle passe, des fois elle passe pas. Des fois elle passe, des fois elle passe pas. Mais quand tu fais un Tehillim, c'est une clé qui passe partout. C'est un passe.
Le Tehillim,
bien sûr. Et c'est pour ça que vous remarquerez, la majeure partie de la prière est composée de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est les Tehillim.
Il y a que
les Tehillim. Parce que les Tehillim, c'est une puissance extraordinaire. Maintenant, imaginez celui qui va lire des Tehillim, et qu'au lieu de penser avoir la kavana de ce qu'il lit, et de parler à Dieu, il va être là, être concentré, est-ce qu'il a eu le hé ou le haïn, etc. Bon, c'est bien. Mais t'es pas là pour ça, papa. T'es pas là pour ça. T'es pas là pour faire. On n'est pas dans un orchestre ici.
Mais il y a un truc qui.
On n'est pas en train de jouer une partition.
Oui, il n'y aurait pas la cavana quand il chante.
Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas la cavana quand il chante. J'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que des fois. C'est que des fois. Non, ce que je dis, c'est que des fois, à vouloir s'intéresser à la forme, on perd complètement le fond. Et c'est pour ça que chez les chassidim, on n'a jamais pris pour la filet de Chazan. On prend un bal tila. C'est quoi un chazan? Un chazan, c'est un chantre qui a une belle voix, etc., qui kiffe tout le monde. Chez les chassidim et dans les maisons des rabbis, on n'a jamais pris de chazan. On a pris un bal tila. Un bal tila, c'est quelqu'un qui a une voix agréable. D'accord? Bon, on n'a pas pris de cantor. On a pris une personne qui a une voix agréable. Qui a une voix agréable. Non, même à Rosh Hashanah. Ils n'ont jamais pris de cantor. Non, mais c'est pas ce que c'est un cantor.
Oui,
c'est des gens qui ont des voix sympathiques. Non, je te parle un ténor. Parce que c'est quoi le problème? Si je viens à la synagogue à Rosh Hashanah, et que je suis concentré toute la prière sur comment le ténor a fait la prière, je suis passé à côté de la prière. C'est-à-dire, on dit comment c'était la prière, il y avait un super ténor. Imagine, il rentre à la maison, il me dit, alors comment c'était la prière, Rosh Hashanah? Il y avait un super ténor, on a kiffé grave! Mais les babas, t'es en train d'être jugé, là, tu te rappelles? Ouais, il y avait un super ténor, un avocat au ténor, un ténor, un avocat au barreau. Quel rapport, maintenant? Et c'est très important. Pirouche, Amilot, Levado.
Et comment on fait avec ce que tu nous as dit il y a quelques années? Il y a quelques temps, où tu nous as dit, faites bien attention quand vous prononcez les mots de la tchila, parce que chaque mot que vous prononcez, c'est un avocat que vous créez.
Bien sûr.
Et alors, comment on fait avec tout ça?
Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mal prononcer. Je ne dis pas qu'il faut pas mal prononcer.
J'ai compris. Mais alors, comment on fait? Alors, si par exemple, est-ce qu'on doit le faire en plusieurs étapes?
Bien sûr.
Genre, on comprend les mots. Et
d'abord,
après...
number one, essaye de comprendre ce que tu dis.
Ça veut dire qu'il ne faut pas hacher le travail.
D'abord, fais attention au fond. Après, tu feras attention à la forme. D'abord, fais attention à ce que tu lis. Après, tu verras les détails, comment on va lire, etc. Moi, j'ai un principe, excusez-moi. Quand quelqu'un lit la prière, il lit le psaume, etc., je reprends jamais. Je reprends pas. Pourquoi tu reprends? Si, à moins qu'il a sauté carrément un chapitre, il fait par cœur. Tu reprends. Pourquoi tu reprends? À quoi ça sert? Il est dedans, il est dans sa prière, en train de prier. Qu'est-ce que tu reprends maintenant? Tu veux dire, ah, je te remprie? Il est pas en train de te rendre quitte, en plus. Il est en train de, il lit à voix, qu'est-ce qu'il y a? T'es obligé de le reprendre. Si après tu vas le voir, tu dis, écoutez, vous savez, ça fait plusieurs jours que je vous vois, tu fais une erreur, telle erreur, reprends telle erreur, c'est une chose. Mais stam, comme ça, reprendre, à quoi ça sert? Alors bon, je suis pas là pour régler des comptes. Non, mais je suis juste là pour expliquer un point très important. Pirouche Amilot. Explication des mots. Et ça, c'est, oui, c'est pas compliqué. Si je vous pose la question maintenant à chacun de vous ici autour de la salle, honnêtement, est-ce que ça serait compliqué, ce soir et demain matin, quand vous lisez votre schéma, de lire votre schéma avec la traduction des mots? D'essayer de prendre une minute de plus pour essayer de penser à la traduction des mots. Aujourd'hui, vous avez des livres avec la traduction des mots. Est-ce que ce serait tellement compliqué? Non, c'est pas compliqué. Moi, pourquoi je le fais pas? Parce que je me dis, bon, laisse tomber, ça sert à rien. Qui t'a dit que ça sert à rien? Qui t'a dit que ça sert à rien? T'étais à la place de Dieu pour savoir que ça sert à rien? Je te dis non. Sache que tu vas commencer comme ça, avec le sens des mots, et après, tu vas voir, ça va décoller. Tu vas voir, ça va décoller. Il suffit juste de faire Pirush HaMilot. On va terminer avec ça. Are kavanazo al derech mashal kemo nishmatacha shenu ba'atzecha l'uprira. וכול בידותיו שאין מיראתו מדברים המזיקים אותו בבתו לדברים הנביאים אצלו הם רק טבעיים אצלו ולא מבינתו ודעתו שתרמינה וכך אין על דרך משל ההיראה וההבאה טבעיות המסתורת ולכל ישראל כי אין ירושלים ובתנו כובתו ונשתנו כנזכר לאל. בוא, שיקספיק. בוא, למור הזקה תודי כשזה יותר סמפ.
נפה
ריבי.
À la fin, c'est impossible.
Pourquoi? Attendez.
Non, c'est-à-dire que plus ça, c'est vrai, plus tu rajoutes, plus regarde. On est loin du.
C'est pas compliqué. Regarde, c'est vraiment pas compliqué. Demain matin, tu vas faire ta tefila. Tu vas mettre tes tefilines. D'accord. Fais une petite pause pour essayer de te dire qu'est-ce que je fais, où je vais. Très bien. En plus, tu mets tes tefilines. Essaie juste de comprendre la traduction du schéma que tu vas lire. C'est tout ce qu'on te demande. Même du premier paragraphe. Comprends la traduction du schéma que tu vas lire. C'est tout ce qu'on te demande, c'est pas compliqué. C'est des petites choses qu'on te demande. Après, maintenant, d'un autre côté, on peut pas se suffire de ça. Après, il viendra une autre étape dans laquelle tu vas réfléchir profondément en quoi ça me parle, en quoi c'est important pour moi. Ça viendra après. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, dans le cours de cette semaine, je vais terminer avec ça, on a appris comment arriver au cours de la semaine dernière. Dans le cours de la semaine dernière, on a parlé déjà du niveau 2. On dit, ah, tu comprends, tu vois la kavana, et tu vas penser à Dieu, et tu vas commencer, c'est important, et tu vas décoller, etc. Bon, maintenant on a dit, oui, moi j'arrive pas, je suis pas à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? On a dit, ok, t'es pas à ce niveau-là, pas de problème. N'y pense pas alors. Commence par le premier niveau. Pirush HaMilot. La traduction des mots. Juste la traduction des mots. Pirush HaMilot Levano. Et après, laisse-toi parler. Laisse ton cœur parler. Tu vas voir qu'automatiquement, quand tu vas comprendre la traduction des mots, le texte va commencer à te parler, parce que tu dis, attends, mais c'est vrai, tiens, cette bracha, elle me parle, cette bracha. Ça parle un truc qui m'intéresse. J'ai envie de parler à Dieu maintenant. C'est vrai, des fois, t'as envie de parler à Dieu. T'as envie de parler à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, mais je sais même pas de quoi ça parle. Je sais même pas si tu me dis où je veux lui parler, je sais même pas où je veux lui parler. Je sais même pas où je dois placer mon mot. J'ai aucune idée. Mais si je comprends la traduction des mots, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre un livre. Alors, je vous donne un conseil. De prendre un livre avec la traduction des mots. Et essayez step by step, étape par étape. Commencez juste déjà avec la première partie du schéma et la première bénédiction de l'Amida. C'est tout. Par exemple, il y a plein de livres, d'accord? Après, chacun, après, c'est une question de style, c'est une question de, etc. Il y en a qui ont préféré ça, il y en a qui ont préféré le patard. Kif kif. Ce qui compte, c'est que quand tu lis, tu comprends le sens des mots, c'est tout ce qu'on te demande. Tu as compris le sens des mots, tu as déjà tout gagné. Après, tu passeras à la suite. Mais attention, on peut pas se suffire seulement de l'amour caché, parce que l'amour caché, c'est un peu l'amour, comme l'amour animal. On n'est pas encore à l'esprit humain qui a réfléchi. Bon, Anthony, si t'arrives pas encore, ça viendra plus tard. Déjà, commence par Pirush HaMilot, par le sens des mots. Et là, vous allez voir tout de suite, c'est une autre prière, c'est autre chose, rien à voir. C'est une autre prière, c'est un autre sens, c'est une autre envie. Ça veut dire que, imaginez, si je vous dis par exemple, qui n'a pas des problèmes dans sa vie? Qui n'a pas des choses sur lesquelles il a des problèmes des choses qu'il aura envie qui se règlent. Imagine-toi quand tu dis maintenant, tu peux parler à Dieu de ses problèmes. Tu peux lui parler. C'est pas quelque chose que tu dis, bon, bah écoute, on attend, s'il veut, il les règle, s'il veut pas, il les règle pas. Bon, tu peux attendre. Tu peux toujours attendre. Il va les régler certainement. Mais on te dit maintenant, tu peux lui parler à Dieu. Tu peux lui parler. Il est disponible. Il t'a fait un rendez-vous, tu peux lui parler. Mais si tu penses même pas à ce que tu racontes, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? C'est-à-dire, t'étais là, t'as une audience devant le juge, tout est là, l'avocat, le juge, tu prends le texte en chinois, tu prends même pas la peine de savoir ce qu'on va raconter. Bah, ils sont bien. Ils sont à faire avec toi. D'accord? Bon, très vrai. Faut pas se démoraliser.
Non.
Faut être Bessimra. D'accord? Il faut être convaincu qu'on a ça en nous, dans les gènes. Commencez par le sens des mots. Petit à petit, on va y arriver. Et donc, c'est voilà, c'est le prochain chapitre 39. 4 euros, c'est la commission.